Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique.
Édition spéciale Charlie Hebdo en ce mercredi 7 janvier 2015. La rédaction du journal satirique français a été la cible d'un attentat aujourd'hui à Paris. 12 personnes sont mortes dans la fusillade.
Je connaissais Charlie Hebdo qui s'intéressait beaucoup aussi à l'Afrique, qui était déjà venu travailler au Burkina de façon ponctuelle. Je pense à certaines personnes, notamment Tinius.
Le caricaturiste burkinabé Damien Glaise.
Autre réaction, celle de Souleymane Diallo, du journaliste satirique, du journal satirique guinéen Le Lynx.
C'est une tragédie pour la profession de journaliste, une catastrophe pour le satirique que nous sommes, une honte pour le musulman que je suis.
Une tragédie sur laquelle nous reviendrons longuement au cours de cette émission.
Pas de prolongation du délai accordé aux rebelles rwandais de FDLR pour désarmer, a fait savoir le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC.
Et nous aurons, comme d'habitude, notre page économie, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal.
Actualité oblige, nous ouvrons ce soir sur l'attentat contre Charlie Hebdo, la rédaction de l'hebdomadaire satirique, a été la cible d'une fusillade aujourd'hui à Paris. Une tragédie qui a fait 12 morts et 11 blessés, dont 4 graves. Des islamistes radicaux avaient promis de punir le journal pour avoir publié en 2006 des caricatures du prophète Mahomet, le fil des événements, avec Claire Morin-Gibourg.
Le personnel de Charlie Hebdo a été surpris par les tueurs en pleine conférence de rédaction. Au cri d'Allah Akbar, 3 hommes armés ont ouvert le feu, tuant de sang-froid 12 personnes. Les auteurs de la fusillade, dont l'identité reste inconnue, ont réussi à prendre la fuite. Parmi les victimes, on compte 8 journalistes, dont Charb, Cabu, Tinius et Volinsky, caricaturistes vedettes et figures emblématiques de la liberté d'expression, déjà menacées pour des dessins de Mohamed. 2 policiers ont également été tués. Une vidéo filmée près des locaux de Charlie Hebdo montre 2 hommes armés de fusils automatiques exécutant d'une balle dans la tête un policier à bout portant criant « On a vengé le prophète Mohamed ». Cet attentat est le plus meurtrier en France depuis des décennies. Des milliers de personnes sont actuellement rassemblées à Paris et en province en hommage aux victimes du carnage.
L'ensemble des rédactions françaises, dont Le Monde, Les Échos, Télérama, Le Point, L'Express et Libération, ont condamné l'acte de terrorisme inqualifiable perpétré au siège de Charlie Hebdo. Idriss Fayl a recueilli la réaction d'Alexandra Schwarzbrod du journal Libération à Paris.
On est à la fois sidéré, horrifié, indigné et déterminé plus que jamais à défendre la liberté d'expression. Et là, on est tous mobilisés pour essayer de faire le plus beau journal possible demain pour rendre hommage à Charlie Hebdo et à la liberté d'expression. Et je crois que tous les patrons de presse en France sont en train d'écrire un texte commun pour justement rappeler leur attachement plus que jamais à la liberté d'expression.
Est-ce que vous pensez que c'est lié à la reproduction des fameuses caricatures du prophète Mohamed ?
Je pense qu'en toile de fond, il y a sans doute un lien, bien sûr, puisque Charlie Hebdo, c'est pas un journal comme les autres. Donc il y a sans doute un lien, mais maintenant, c'est un peu tôt pour s'exprimer là-dessus, tant qu'on n'en sait pas davantage.
Alexandra Schwarzbrod du journal Libération à Paris. Le secrétaire d'État américain John Kerry a exprimé la solidarité des États-Unis à l'égard de la France, Gabi.
On l'écoute.
Je veux m'adresser directement aux Parisiens et à tous les Français pour leur dire que tous les Américains se tiennent à leur côté, non seulement dans l'horreur, la colère et la condamnation de ce terrible acte de violence, mais que nous sommes également solidaires de votre engagement dans la bataille, la lutte contre l'extrémisme et de votre détermination à protéger la valeur qui fait si peur aux extrémistes et qui a toujours uni nos deux pays. La liberté, c'est ça. Aucun pays ne sait mieux que la France que la liberté a un prix, parce que c'est en France que de nombreux idéaux démocratiques ont vu le jour.
Le secrétaire d'État américain John Kerry.
La sanglante attaque contre Charlie Hebdo a suscité l'horreur au sein de la communauté internationale, Timothée de Langmaille.
Eh oui, Gabi, le président Barack Obama a fermement condamné la terrifiante fusillade. David Cameron, chef du gouvernement britannique, lui, dénonce des meurtres révoltants. Angela Merkel, la chancelière allemande, s'est dite bouleversée. L'Espagne condamne l'horreur, tout comme le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. Choc, consternation et effroi pour le premier ministre belge, Charles Michel. Son homologue canadien, Stephen Harper, se dit horrifié par cet acte barbare. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit consterné par cette attaque contre deux piliers de la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté de la presse. C'est le même son de cloche au Vatican qui condamne la violence contre les personnes et la liberté de la presse. Enfin, Amnesty International a évoqué un jour noir pour la liberté d'expression.
Comme nous l'avons dit, c'est la consternation un peu partout après cette attaque terroriste qui a fait au moins 12 morts à Paris. Attaque contre l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle attaque au Mali. Des djihadistes ont pris pour cible la mairie de Djoura hier soir dans le centre du pays, près de la frontière mauritanienne. Bilan, un civil tué.
Le chef de Boko Haram menace de mener au Cameroun des attaques aussi violentes qu'au Nigeria. Dans une vidéo postée le 5 janvier sur YouTube, Aboubakar Shekau met le président camerounais en garde. Je cite « Paul Biya, si tu ne mets pas fin à ton plan maléfique, tu vas avoir droit au même sort que le Nigeria. Tes soldats ne peuvent rien contre nous », prévient le djihadiste nigérian.
Des heurts ont éclaté aujourd'hui à Conakry, la capitale guinéenne, entre forces de sécurité et militants de l'opposition venus assister à un meeting. C'est ce que rapporte un journaliste de l'AFP et des témoins. À noter que l'opposition accuse le pouvoir de répression systématique.
Poursuite aujourd'hui à Abidjan du procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo. Il s'agissait, précise l'AFP, de l'audition d'ex-membres de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, puissant et sulfureux syndicat proche de l'ex-président Laurent Gbagbo. Madame Gbagbo, âgée de 65 ans, est jugée depuis le 26 décembre dernier aux côtés de 82 co-accusés pour son rôle présumé dans les violences meurtrières de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette crise, on se le rappelle, a fait 3000 morts et s'est achevée par l'arrestation du couple présidentiel.
Épidémie d'Ebola, les présidents nigériens Mahamadou Issoufou et béninois Thomas Yayi Boni étaient en visite en Guinée aujourd'hui. Ils entendaient ainsi marquer leur solidarité et encourager les hommes d'affaires à revenir dans ce pays frappé par le virus.
Triste bilan dans l'est de la République démocratique du Congo. Une trentaine de personnes ont été tuées fin décembre en province orientale dans l'est du pays au cours d'une série d'attaques. C'est ce qu'indique la mission onusienne à RDC, la MONUSCO, qui attribue ces crimes à des rebelles ougandais.
Attentat à la voiture piégée devant une académie de police à Sanaa, capitale du Yémen. Bilan, au moins 30 morts et 40 blessés, selon les autorités locales. La milice chiite, qui contrôle Sanaa et d'autres régions du pays, a condamné l'attaque qui n'a pas encore été revendiquée. La capitale yéménite est en proie à des troubles récurrents depuis la chute du dictateur Ali Abdullah Saleh.
En Turquie, un groupe d'extrême gauche a revendiqué l'attentat suicide d'hier à Istanbul qui a coûté la vie à un policier et blessé un autre. Le parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple a dit sur son site internet que l'attaque est un représailles à la mort l'an dernier d'un adolescent de 15 ans qui avait été frappé à la tête en 2013 lors d'une manifestation anti-gouvernementale. Le groupe revendique également une attaque à la grenade jeudi dernier devant les bureaux du président turc Recep Tayyip Erdogan.
Et on connaît maintenant la date de l'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Ce sera le 1er avril prochain. La date a été annoncée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. L'adhésion à la CPI permettra aux Palestiniens de porter des accusations de crimes de guerre contre Israël. Mais les Palestiniens eux-mêmes pourraient en faire l'objet. La démarche du président Mahmoud Abbas a été sévèrement critiquée par Israël, qui a annoncé le gel de 125 millions de dollars d'impôts prélevés par l'État hébreu au profit de l'autorité palestinienne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et on passe à la minute éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jean-Roger Billon. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Pollution pétrolière au Nigeria, Shell va dédommager les victimes.
Le géant pétrolier a décidé de dédommager la communauté du delta du fleuve Niger à hauteur de 84 millions de dollars. Ces populations avaient été touchées par deux graves fuites de pétrole fin 2008 et cet accord vient mettre un terme à trois années de palabres judiciaires. La nouvelle, si elle est bonne, n'a pas vraiment enflammé les populations.
L'argent versé, si vous le comparez au niveau des dommages causés à la collectivité, n'est rien. Parce que nous parlons de communautés ici, où des milliers de personnes dépendent de leurs rivières, de leurs terres pour leur survie, et ces propriétés sont détruites. Cela va prendre plusieurs années pour reconstituer ce patrimoine, alors peu importe le montant d'argent que vous payez s'il ne peut pas réparer les dommages causés.
La voix de Patrick Nagbanton, membre de la communauté du Delta du Niger. Shell va au total verser 63 millions de dollars à 15 600 personnes, soit plus de 3 000 dollars par personne, et 36 millions de dollars au profit de l'ensemble de la communauté Bodo, qui regroupe des villages vivant principalement de la pêche.
Le gouvernement ivoirien a lancé aujourd'hui un appel d'offres international pour la construction du quatrième pont d'Abidjan.
Le projet de construction du quatrième pont est financé grâce à un prêt obtenu par l'État ivoirien auprès de la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD, et de la Banque d'Investissement et de Développement de la CDAO, la BIDC. Le troisième pont d'Abidjan, baptisé pont Henri Konabedi, a été inauguré le 16 décembre dernier, plus de 55 ans après la construction du pont Félix Houphouët-Boigny en 1957, suivi du deuxième pont général de Gaulle, c'était en 1967.
Les catastrophes naturelles en 2014 ont coûté nettement moins de vies humaines et causé moins de dégâts matériels que celles de 2013.
Oui, et ce constat résulte d'une étude de Munich Re, géant allemand de la réassurance. L'étude annuelle qui fait autorité en la matière estime à 110 milliards de dollars les coûts cumulés des catastrophes de l'an dernier, moins que l'année précédente, 140 milliards de dollars, et que la moyenne des 10 et même des 30 dernières années. C'est le cyclone Uhud en Inde qui a causé le plus de dégâts avec 7 milliards de dollars.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon.
Et on passe tout de suite à l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir cher Roubaix, bonsoir à tous.
Alors, parle-nous de ce match amical entre le Cameroun et la RD Congo.
Oui, les deux équipes sont en préparation pour la CAN 2015 et n'ont pu donc se départager un but partout ce mercredi. Un match amical au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions de Ndomtable ont d'abord ouvert la marque par Franck Etoundi à la 38e. C'est Yannick Bolassie entré en fin de rencontre qui a égalisé au bout du temps additionnel. Le Cameroun quitte Yaoundé demain jeudi pour Libreville où il boucle sa mise au vert jusqu'au 16 janvier alors que les Léopards de la RDC vont poursuivre leur préparation au centre d'excellence de la CAF à Mbankomo, en banlieue de Yaoundé.
Et parlant du Cameroun, Alex Song prend sa retraite internationale.
Voilà, le cousin de l'autre, hein, le milieu camerounais qui n'a pas été retenu pour la CAN 2015 a mis fin à sa carrière internationale à 27 ans, avec effet immédiat, a-t-il annoncé mercredi par l'intermédiaire de son club West Ham en Ligue anglaise. Il n'a plus porté les couleurs de sa sélection depuis son exclusion contre la Croatie lors du Mondial 2014. Vous vous rappelez de son vilain geste contre le joueur croate.
Voilà, et on parle maintenant de Steven Gerrard, et l'anglais est très près de nous en Californie.
Oui, il arrive dans la MLS, la Major League Soccer, et il va jouer dans le Los Angeles Galaxy. C'est ce qu'annonce le Los Angeles Times dans son édition de ce mercredi. Vendredi, le capitaine des Reds, âgé de 34 ans, avait annoncé qu'il quitterait son club de toujours à l'expiration de son contrat à l'été 2015.
Voilà, merci Bagassi Koura pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Chérubin Dorcil en votre compagnie pour cette édition du 7 janvier 2015. Retour sur la principale nouvelle du jour, l'attaque terroriste à Paris contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Le bilan est de 12 morts et plusieurs blessés.
C'est la chasse aux assaillants maintenant, Morgane, et puis ces manifestations qui se déroulent un peu partout en France, à Paris et en province, pour montrer la solidarité des Français avec Charlie Hebdo, aussi pour défendre ses valeurs démocratiques, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Ils sont des et des milliers. Il faut dire que l'attaque contre Charlie Hebdo a suscité des réactions un peu partout à travers le monde, pas seulement en France, y compris sur le continent africain, Morgane.
Au compte des réactions ce soir, celle de Damien Glaise. Il est caricaturiste à Gigi, le journal du jeudi à Ouagadougou. Au micro de Bagassi Koura, il explique qu'il connaît bien Charlie Hebdo, qui s'intéresse aussi à l'Afrique.
Je connaissais Charlie Hebdo, qui s'intéressait beaucoup aussi à l'Afrique, qui était déjà venu travailler au Burkina de façon ponctuelle. Et je pense à certaines personnes, notamment Tinius, que j'ai fréquenté il n'y a pas très longtemps et qui était venu à Ouagadougou pour faire pas mal de choses, notamment une exposition. On se disait toujours que les dessinateurs africains avaient théoriquement plus de problèmes que les autres, mais on voit qu'on meurt aussi en plein cœur de Paris. En Afrique, le dessin est assez peu répandu, en tout cas dans la partie francophone du continent, donc on a eu moins de dessinateurs tués, même s'il y a eu des dessinateurs tués en Libye, au moment de la guerre couplée entre la Sierra Leone et puis la crise au Libéria. Et de toute façon, dans le métier de dessinateur, je crois qu'il faut de l'inconscience, il ne faut pas chercher à réfléchir, puisqu'on est dans une certaine forme d'outrance, d'exagération qui est totalement intégrée dans le concept de caricature. On ne va pas commencer à retenir notre plume, sinon il vaut mieux arrêter. Donc évidemment, nous, on va y aller. On va faire beaucoup de dessins sur cette affaire, sur des portails où on va essayer de leur rendre hommage aux dessinateurs. Et puis on va essayer de faire des dessins tels qu'ils les auraient fait eux-mêmes. Et on sait que Charlie Hebdo, c'était de la caricature extrêmement corrosive. Donc ce n'est pas le moment pour nous de nous brimer ou d'être refroidis par ces événements.
Une réaction du caricaturiste burkinabé Damien Glaise.
Écoutons à présent Souleymane Diallo du journal satirique guinéen Le Lynx.
C'est une tragédie pour la profession de journaliste, une catastrophe pour le satirique que nous sommes, une honte pour le musulman que je suis. Je suis franchement bouleversé, d'autant plus que je connais un certain nombre de victimes que j'avais rencontrées à Göteborg il y a quelques années. Et on a parlé satire en Europe, en Afrique, et comment développer cet aspect de la profession. Et si aujourd'hui nous avons 12 morts dans une seule rédaction, c'est vraiment une catastrophe. Je suis atterré. C'est inqualifiable, c'est ignoble. Je ne trouve pas le mot juste pour qualifier la tragédie. Je ne sais pas ce qu'on nous en veut. Mais de grâce, il faut qu'on résiste au terrorisme. Il faut qu'on dénonce le terrorisme, quel que soit le prix à payer.
Alors vous-même, justement, à votre rédaction, est-ce que vous pouvez opérer en toute tranquillité?
Mais on se donne ce devoir d'opérer en toute tranquillité, quel que soit par ailleurs ce qu'on pense en face. Il faut sortir la vérité où elle est, quelle que soit sa laideur. Eh bien, les confrères de Charlie Hebdo sont tombés victimes de cette conviction. Nous ferons notre devoir, quel que soit ce qui arrive.
Souleymane Diallo du journal satirique guinéen Le Lynx. Autre réaction, cette fois-ci à Douala, celle du caricaturiste camerounais Paul-Louis Niemb, alias Popoli, du journal satirique du même nom. Il connaissait bien les confrères de Charlie Hebdo assassinés aujourd'hui.
C'est des confrères, c'est des amis, c'est des gens avec qui on avait eu l'habitude de se rencontrer régulièrement, notamment à Nantes, où on avait un rendez-vous annuel. Et je suis surpris, fortement abattu, de voir que sur la base même d'une conférence de rédaction, on puisse débarquer, les abattre, et que cela soit passé de cette façon-là. Je ne trouve pas de mots pour qualifier ce qui arrive. Ça pousse tous les dessinateurs camerounais avec qui j'ai causé aujourd'hui à s'interroger sur ce qui n'est qu'un embryon d'activité, mais qui est un coin de sourire pour nous tous, parce que quand tu as dessiné, tu es devenu plutôt tolérant. Et que l'intolérance vienne s'impliquer et régir notre petit métier, cela me laisse en mots.
Qu'est-ce que les caricaturistes doivent faire face à cette situation?
Qu'est-ce que l'être humain doit faire face à la barbarie? Je serais tenté de poser la question. Mais bon, le caricaturiste, lui, il a la caricature comme la parole. Et pour nous qui sommes chrétiens, on a appris que au commencement était la parole. Si on ne peut plus s'exprimer, que reste-t-il de la vie ?
Le caricaturiste camerounais Paul-Louis Niem, alias Popoli, joint à Douala.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'homme qui s'est rendu hier en Centrafrique est bel et bien Dominique Ongwen, commandant de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Nous pouvons maintenant confirmer que c'est lui et nous pouvons aussi confirmer qu'il est en détention dans notre base à Obo, a déclaré Paddy Ankunda, porte-parole militaire de l'armée ougandaise. Le chef de la LRA, Joseph Kony, est recherché par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pour une analyse de cette reddition d'Ongwen, Nicolas Pinault a joint Pauline Zerla, de l'ONG Invisible Children. Cette ONG est particulièrement active dans la démobilisation des combattants de la LRA en Centrafrique.
Je pense que clairement il s'agit d'une victoire, une victoire très importante parce que ça représente une très grosse défaite pour les LRA. On sait que Dominique Ongwen était très important au sein du groupe, qu'il a été numéro 2 pendant très longtemps, malgré certaines oppositions avec Joseph Kony au cours des années qui viennent de passer. Et je pense que ça ne fait que renforcer la stratégie d'Invisible Children, de s'encourager sur les efforts de défection. Alors malgré le fait que nous n'avons pas tous les détails exactement de ce qui a mené la défection de ce membre-là, on sait que dans l'année qui vient de passer, Invisible Children a produit un certain nombre de messages comme Home, donc qui sont les messages que nous diffusons dans le Boost à travers des flyers et des messages radio, s'adresser spécifiquement à Dominique Ongwen. Donc il sera intéressant de voir l'impact de ça. Je pense que ça nous donne une nouvelle motivation pour vraiment continuer avec les efforts de défection, avec ces messages et également avec les comités communautaires de défection que nous avons mis en place dans plusieurs localités du sud-est de la RDA.
Est-ce que l'armée de résistance du Seigneur est aujourd'hui un groupe aux abois, comme on le dit ?
Alors il y a beaucoup d'hypothèses qui viennent. Maintenant, comme vous le savez sans doute, le nombre de membres dans l'ERA a beaucoup diminué. On est entre 175 et 225, d'après les estimations de Invisible Children, le mois dernier. Donc je pense qu'il y a clairement une pression qui s'est fait ressentir au sein du groupe. En termes d'analyse de ce que ça veut dire avec la défection de Ongwen, je pense qu'il va falloir attendre quelques semaines pour en voir l'impact. Mais clairement, le groupe fait face à une pression, non seulement des ONG, mais également des forces armées ougandaises et américaines présentes dans la région. Il y a plein de signes qui peuvent mener à cette conclusion. Maintenant, je pense que Joseph Kony, dans le passé, nous a montré son pouvoir, spécialement dans la région où il se trouve. Donc, j'espère que oui. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse garantir ça dès à présent.
Jointe par Nicolas Pinault, Pauline Zerla de l'ONG Invisible Children en Centrafrique.
Nouveau numéro de Washington Forum. Bonne année 2015 à tous. Nous ferons le point sur le virus Ebola un an après son apparition en Guinée. La menace est-elle écartée ? La mobilisation internationale est-elle suffisante ? Nous en débattrons. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook. Et à jeudi, 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
République démocratique du Congo, il n'y aura pas de délai supplémentaire pour permettre au FDLR de désarmer. Propos tenu ce mercredi à Kinshasa par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Selon Martine Kobler, le délai de 6 mois accordé depuis le 2 juillet dernier aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda était largement suffisant. De son côté, le gouvernement rwandais affirme avoir pris toutes les dispositions pour accueillir ceux qui se sont rendus volontairement. Reportage de Dominique Dinonga de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Les opérations militaires contre les combattants FDLR réfractaires au processus de désarmement volontaire vont se dérouler dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Les FRDC et la brigade d'intervention de la MONUSCO font de ces opérations une priorité pour la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. Martin Kobler est représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC.
La première priorité, c'est maintenant vraiment le combat et les actions, les opérations militaires contre les FDLR. Nous avons eu le délai de 2 janvier et nous avons eu plusieurs réunions du Conseil de sécurité dans les dernières semaines. C'était un processus qui n'était pas crédible, qui n'était pas sincère. Et le processus, selon notre avis, du désarmement volontaire des 6 mois, c'était très très généreux, a produit 357 combattants qui se sont rendus avec leurs dépendants. Et c'est définitivement pas suffisant.
Pour les FDLR, les frappes des FRDC et la brigade d'intervention de la MONUSCO vont toucher des personnes inoffensives car tous les combattants ont déjà déposé les armes. La Forge Fils Bazeye est porte-parole des FDLR.
Nous, nous avons déposé les armes depuis le 30 décembre 2013. Nous ne les reprendrons jamais. Tout ce que nous demandons, c'est que la communauté internationale nous accompagne pour pouvoir rentrer chez nous. Que la communauté internationale exige à Kigali d'accepter d'ouvrir les portes de notre pays pour que nous puissions rentrer.
Du côté de Kigali, les autorités affirment que les structures d'accueil des ex-combattants FDLR sont déjà opérationnelles. Séraphine Mukatabana est ministre rwandais en charge des réfugiés.
Les ex-FDLR, quand ils arrivent, on les accueille à partir de la frontière. Ils sont acheminés au centre de démobilisation et de réintégration de Mutobo, où nous faisons un triage. Les familles qui sont civiles sont séparées des ex-militaires. Et les familles vont au village. Enfin, on donne le temps à l'ex-militaire d'accompagner sa famille jusqu'au village. Et après une semaine, ils reviennent suivre des séances d'intégration au niveau de Mutobo.
Avant le début effectif des opérations, une réunion d'évaluation de la situation des FDLR est annoncée le 15 janvier à Luanda, en Angola, par Jacob Zuma, le président sud-africain qui préside l'organe de sécurité de la SADC. Les pays de la CIRGL sont invités à cette réunion. Kinshasa, Dominique Dinanga, Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
Et c'est presque la fin de l'édition.
Oui, et comme tous les soirs, on se quitte, en musique. On écoute
On va pas se terminer.
Non, on se termine pas. On écoute Baikat de Ismaël Lo.
Manehe Baikat bi Halam demon na beine Waye boom got up na mo Hey Baikat bi Halam demon na beine Waye boom got up na mo Bula nekhe talala say loho Yay doctor bi patch ki fuas kan bi Nika dale zingi tumre o bachi miskin Ya zume ko di dan sa dole Andak naad bi di ligay Ta nyaka di tour ngay bay di dukat Bilay ya am jom Kun jara ma bay kat Ku fi khib ya kadundal ba musur Ya mom mon sambay Ya mom sa ganchakh mom seyor Ya mom sa aladi bay
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis à la production Lionel Gaïma.
Assisté de Keith Holmes.
Merci à toute la rédaction pour nous avoir aidé à préparer cette émission. Au micro, c'était Morgane Guiriec.
Et Chérubin Gabi Dorsil. Ya kadundal ba musu
pour vivre.